RCF.
Chers amis auditeurs, bonjour. Nous nous retrouvons donc aujourd'hui une deuxième fois pour vivre et créer en couleur avec Franck Bichon. Nous avons évoqué au cours de notre première rencontre votre parcours, la façon dont vous exprimez la couleur, le noir et blanc, la lumière, dans vos paysages et en architecture. Passons maintenant en cuisine. Votre appareil saisit des rouges, des jaunes, des blancs. La palette multicolore stimule nos papilles. C'est très beau, trop beau. On en mangerait, on est vraiment frustrés. Comme si cette profusion de couleurs a activé notre faim. Si tel est le cas, si tel est votre objectif, Franck, vous avez réussi. Comment procédez-vous? Où se situe votre marge de manœuvre en matière de reportage culinaire? Est-ce que vous pourriez, par exemple, souhaiter plus de couleurs pour une prise? Est-ce que vous avez, en quelque sorte, votre mot à dire pour composer l'assiette à photographier? C'est-à-dire, est-ce que la photo culinaire résulte du dialogue entre deux artistes, le cuisinier et le photographe?
Il y a plein de cas différents. Moi, je travaille très peu avec des chefs, parce que les chefs... Ils travaillent pour le goût, alors que nous, la photo, on travaille pour le visuel. J'ai travaillé quand même avec pas mal de grands chefs très très connus. Les premières heures ont toujours été difficiles, parce que j'aurais demandé de refaire ce qu'ils avaient fait, parce que c'était pas photographiable. Je leur dis, moi, je m'en fous, je veux pas manger ce que vous allez me faire. On va faire une photo. On n'a pas
l'odeur.
On n'a pas l'odeur. Mais je me suis permis de le faire.
J'espère que vous l'avez mangé, au moins.
C'est pas le souci en photo culinaire. C'est-à-dire que nous, notre but, c'est de faire une photo qui donne envie. On n'a pas l'odeur, on n'a pas le goût, on ne peut pas manger la photo.
Ah mais je vous assure qu'on en mangerait là, ce que vous photographiez.
C'est le but, c'est de donner envie d'en manger. Ouais. Mais moi je me souviens très bien d'avoir fait retourner 3 fois des assiettes. C'est un grand chef, hein, parce que je faisais là des photos chez lui, où j'avais pu monter un studio, en disant, vous ne pouvez pas m'en refaire la même, mais au lieu de te tourner à gauche, tourner dans le sens des aiguilles d'une montre. Parce que ce n'est pas cohérent, la majorité des gens qui mangent dans votre restaurant sont des droitiers. Et lui, il était gaucher, mais il est gaucher. Et il me l'a refait, ça. Il n'est pas vexé. Mais alors, nous, en photo culinaire, en général, on part de la page blanche. Donc, on va travailler en studio, et c'est là que je reviens à l'archi. Là, moi, je dessine. Je dessine beaucoup avant de commencer la mise en place. Et puis là, c'est un travail d'équipe, parce qu'en général, il y a une styliste culinaire qui fait la cuisine, une styliste qui va chercher des éléments du décor pour faire la photo, mais si on n'en a pas parlé avant, on ne s'est pas mis d'accord, il n'y a pas une idée, on ne fait rien.
Et s'il n'y a pas une touche de vert, par exemple, quand il en faut absolument, je sais, quelquefois je me fais attraper à la maison, si je fais un plat, je peux rajouter une herbe là où il n'y a pas du tout lieu d'être, mais juste pour le visuel, est-ce que ça vous arrive?
Ah oui, tout à fait, je dirais que ça c'est... Le petit plus, à la limite, ça va se voir sans se voir. Mais l'avantage, quand on fait des photos culinaires, on travaille en studio, on part de zéro, on part du noir, on construit tout. Mmh. Vous posez une table, vous posez un fond, vous choisissez du stylisme, on fait la bouffe, on choisit une taille d'assiette, on prend des verres, des couverts, on travaille avec des pinces, avec des gants, et qu'à l'arrivée, que ça se mange ou pas, on s'en fout. Surtout, on s'en fout. Dans la plupart des cas, quand on travaille avec des gens qui font bien leur métier, ça peut se manger. Mais c'est pas notre préoccupation. Imaginez, on fait une glace. On peut pas faire une vraie glace pour une photo. Ouais. Donc, c'est que du faux. Mmh. Mais peu importe, ce qui compte, c'est le résultat. Le principe de la photo, c'est qu'on soit le plus proche de la vérité des matières, de la vérité des couleurs. Et là, la grande liberté, c'est au moment où on dessine, c'est un peu comme le lancement d'une fusée. Vous savez, quand on fait des photos culinaires, on n'en fait pas beaucoup par jour. Si on en fait 3, c'est vrai qu'on est bon. Et souvent, on est une équipe, on est 5 hein, pour faire une photo culinaire. Mais c'est vraiment un compte à rebours. La construction du décor, la lumière, l'heure de la journée, le propos, on valide tout, le stylisme, les échelles. Puis, quelquefois, c'est pas beau, on n'est pas content. Nous, on recommence.
Alors, vous alimentez justement, Franck Bichon, un sujet qui me tient à cœur, celui de la confrontation photo réalité. Le tableau, par exemple, en ce qui me concerne, quand je choisis un tableau en vue de son impression, c'est pas le même que celui que je choisis pour être exposé, parce que les couleurs ne rendent pas toutes de la même façon. Il peut arriver pourtant que quelqu'un achète uniquement sur photo, mais alors quel soulagement quand il me dit que le tableau est mieux que la photo. Bon, est-ce que vous confirmez que certaines couleurs sont plus difficiles à rendre que d'autres ?
Alors c'est de moins en moins vrai, c'était vrai en argentique dans la mesure où les films couleur avaient une capacité d'enregistrement. C'est comme votre micro, il y a des sons qui peuvent enregistrer, d'autres pas. En argentique, il y a des couleurs qu'on ne peut pas enregistrer ou mal. En numérique, ça devient de moins en moins vrai. Parce que d'abord, on a toutes les sources d'éclairage qui permettent d'avoir toutes les longueurs d'onde qu'on veut. Les capteurs permettent ça. Et après, il y a un travail derrière, de travail de colorimétrie, de température de couleur, de réglage. Quand vous parliez de vos tableaux, si la photo est mauvaise du tableau que vous aimez, c'est que le photographe n'est pas bon. Ou qu'il ne s'est pas bien penché sur le truc.
Évidemment, c'est moi, alors.
Mais normalement, une reproduction de tableau doit rendre les couleurs du tableau, à part quelques exceptions près, de couleurs, notamment les verts.
Non, mais il y a quand même des couleurs qui sont très difficiles à rendre.
Si un photographe qui travaille bien passe le temps qu'il faut, moi j'ai travaillé pour un petit peu pour le Louvre et un petit peu pour certains collectionneurs, notamment un restaurateur d'icônes, qui m'a demandé de photographier des pièces extrêmement rares. Bon, je lui ai demandé cher, parce qu'il fallait passer du temps, mais je vous assure, on ne voyait absolument pas la différence. C'est une question de méthode de travail. Moi, dans ces cas-là, même pour la photo culinaire, quand j'ai certaines couleurs, je mets dans la photo une charte de couleurs.
Oui.
Et puis, tant que je photographie, tant que je n'ai pas la charte de couleurs, quand je recommence.
Oui.
C'est vraiment important.
Oui, c'est la seule façon, la charte de couleurs.
En photo, je ne fais pas de reproduction, je fais de la création. Donc la liberté, c'est ça. En plus, il y a des couleurs que moi, j'aime moins que d'autres. Donc je ne vais pas forcément tricoter dans ces couleurs. Mais quand on travaille, on a un langage, on articule ces couleurs. Et surtout, on veut créer un univers cohérent.
Par rapport à la liberté et la réalité, quel droit vous donnez-vous par rapport à cette réalité? Moi, je vous avoue, les toits bretons dans ma peinture n'ont jamais été gris parce que j'avais plutôt envie de donner une note de rouge pour réveiller tout ce vert. Bon, est-ce qu'il vous arrive, Franck Bichon, de tricher vous aussi un petit peu avec la couleur, d'en choisir une pour l'esthétique ou pour votre message? Avec le numérique, en fait, on travaille la couleur peut-être un art en soi. Je veux dire, par exemple, aujourd'hui, Andy Warhol pourrait réaliser ses sérigraphies à l'aide du numérique. Jouer avec la couleur, est-ce que c'est un art ou un artifice? En ce qui vous concerne, je pense là aux photos du Millennium Bridge de Newcastle. On peut les voir sur votre site. Vous faites de la couleur un phénomène quasi naturel. Est-ce que vous êtes d'accord avec cette analyse?
Oui, alors moi, je pense que tout est permis. Effectivement, les ardoises en Bretagne, elles n'ont jamais la même couleur. En fonction de l'hygrométrie, de l'angle par rapport au soleil, et puis on ne voit pas tous de la même façon en plus. On a le droit de voir les ardoises plus bleues, plus vertes, plus grises, plus rouges. Tout est permis. Andy Warhol, il a vécu une époque où il n'y avait pas de numérique. Donc le moyen le plus simple pour faire de la reproduction, c'était la sérigraphie. Il n'était pas riche, il a voulu le devenir très rapidement, il a utilisé un moyen très malin, très fort, une communication très forte pour faire ça.
Donc il est méchant là.
Non, moi je ne suis pas méchant parce qu'Andy Warhol, j'aime bien les gens qui réussissent, il a fait des choses passionnantes, il a fait d'autres choses moins passionnantes, je suis moins intéressé par son envie de gagner beaucoup d'argent avec que des gens riches. Sa peinture et sa démarche que je trouve vraiment intéressante. Aujourd'hui, certainement, il travaillerait autrement. C'est comme si...
C'est juste ce que je voulais dire. Hein. Je ne parle pas vraiment de Warhol, là. Je parle du fonctionnement.
Mozart vivra aujourd'hui, il ferait certainement du rap. Donc, je crois qu'en matière de peinture, vous prenez l'exemple de Newcastle, pour moi, c'est le mauvais exemple, là. C'est pas une photo d'architecture avec de la couleur, c'est une animation. C'est un bâtiment qui est éclairé, un pont en plus, assez difficile à éclairer, qui est éclairé de façon un peu kitsch, hein, pour animer une ville qui est pas très gaie. Et le pont bouge, il bascule pour laisser passer des bateaux. Donc si en plus de le faire bouger, qui a une fonction, on lui met de la couleur et de la couleur qui change, moi je trouve ça un petit peu Mickey Disneyland.
Mais ça plaît aussi. Hein.
Ça plaît, mais comme il y a une grande mode à l'époque, fin des mandats de Malraux, d'éclairer les bâtiments publics À l'époque, on n'avait pas les moyens de LED. Aujourd'hui, choisir la température du couleur. Alors, tantôt, c'était éclairé au sodium, tantôt en halogène. On avait des bâtiments verts, des bâtiments jaunes, des bâtiments bleus. Bon, ça, moi, en tant que photographe, je subis. Il m'est arrivé d'avoir des photos des châteaux de la Loire à faire. On s'installe, et puis il y a un type qui passe derrière les manettes. Toc, hop, il allume un côté du château. Il y a un côté qui est ouvert. Alors qu'on attendait le coucher du soleil pour avoir vraiment le reflet de la pierre et tout, on se retrouve avec un château vert. Bon, je trouve pas ça très très heureux, et là j'estime que le travail des animateurs culturels ou des budgets de la culture dans certaines régions ou sur des bâtiments détruit plutôt l'architecture que ne l'embellit. Aujourd'hui il y a des moyens, on le voit sur des bâtiments, notamment je vois les bords de Seine à Paris ou à la Défense, à Londres, surtout les villes qui ont des grands fleuves. Il y a un travail d'éclairage qui est extrêmement bien fait dans l'aspect d'architecture. Là, ça m'intéresse, et là, pour photographier, c'est intéressant. Mais l'architecture, c'est d'abord fait pour vivre tous les jours, 24h sur 24, et quand il suffit d'observer, de s'installer, moi, quelquefois, j'attends 3-4 heures avant de faire la première photo d'un bâtiment.
Alors justement, j'aimerais bien que vous nous donniez quelques exemples pour faire vivre ces photos, d'histoires de photos. Quelle serait votre photo fétiche, et puis votre bêtise de Cambrai, votre photo ratée ou celle dont vous êtes le plus fier, voyez ? Dites-nous un petit peu.
Ça, des photos ratées, je ne vais pas vous les montrer parce que si elles sont ratées, je les ai jetées. Mais j'en ai raté, je vous rassure, beaucoup. Pour moi, les photos, les bêtises de Cambrai, les plus intéressantes, c'est, je l'ai fait, pareil, dans des villes où il y avait de l'eau, et notamment à Venise. Je me souviens un jour, j'étais à San Giorgio, il y avait une lumière d'orage absolument magnifique, et je travaillais, je sais pas pourquoi, avec deux ou trois boîtiers, et j'arrive sur les trois boîtiers à la fin de ma pellicule, c'était à l'époque des pellicules. Je rembobine et tout, je sors la bobine, et au moment où la bobine sort, elle tombe sur les pieds, elle rebondit sur le bord du quai et tombe dans l'eau. Ça m'est arrivé, mais ça ne m'est pas arrivé 100 fois, ça ne m'est jamais arrivé. Donc ça, c'est des grosses bêtises de photographe.
C'est un petit peu énervant, là, quand même.
Un petit peu énervant, surtout si ça arrive plusieurs fois dans la même journée, comme ça m'est arrivé cette fois-ci.
Et puis ça peut coûter cher aussi.
Bah, sur un boulot de commande, oui, mais en l'occurrence, là, c'était pas le cas. Mais...
Tant que c'est pas l'appareil qui tombe, ça va.
Mais non, ça, c'est... ça m'arrive qu'en bateau. ça arrive aussi.
Non, ça vous est arrivé.
Ah ben, moi, j'ai une carte, j'ai arrêté de noter, où j'ai des croix à tous les endroits où j'ai perdu un objectif.
Oh là là.
Parce que ça arrive, on change d'objectif, il y a une vague, pof, ça tombe à l'eau. Là, dans les Pertuis, au large de La Rochelle... j'ai de quoi équiper un jeune photographe si on arrive à dessaler les objectifs.
Je ne suis pas sûr que l'état sera très satisfaisant.
Donc des bêtises comme ça, on en fait plein. En studio, on n'en fait pas parce qu'on a une méthodologie. Mais il m'est arrivé d'en faire, notamment en grand format. Un jour, je faisais une pub pour un fromage à la chambre 20-25. C'est-à-dire que le négatif est 20 cm par 25. Mon voisin est un photographe animalier qui faisait un travail sur les drosophiles aux yeux bleus. Et j'ai été le voir la veille en disant « Demain, je fais une pub de fromage, j'espère que tu ne vas pas me lâcher des drosophiles aux yeux bleus dans les couloirs. » On shoot plein de photos par sécurité, c'était une pub pour de l'affichage. Et dans la série, j'avais bien sûr une part de beau fromage normand en 20-25 avec une mouche aux yeux bleus en plein milieu. Bon, ça, c'est des bêtises de... ouais. Pas grave. Bon, heureusement, j'en avais trois autres qui étaient sans mouche, mais... Mes photos fétiches, ben, y en a une qui est dans mon bureau, qui est une des photos que je préfère. C'est la première photo que j'ai faite de ma femme le jour où je l'ai connue. C'est une photo presque classique pour moi. Mais c'est une photo que j'aime beaucoup parce qu'elle est simple, graphique, elle permet de rêver. Et puis, il y a des photos toutes simples que j'ai à l'arrivée, mais que j'ai mis très, 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 très longtemps à faire. Notamment, je prends par exemple une photo du pont de l'île de Ré. On me demandait tout le temps des photos du pont de l'île de Ré.
Oui, c'est un vrai sujet. Hein.
C'est un vrai sujet, mais de côté bateau, parce qu'un pont, c'est un pont. Le pont de l'île de Ré, il n'est pas forcément très beau. Et j'ai dit, le pont de l'île de Ré, ce serait bien si un jour je pouvais le faire après une pluie, pour qu'il brille, après un orage, pour avoir un ciel sombre. Et au coucher du soleil, parce que comme ça, j'aurai au moins tout le réverbère d'allumé, et j'aurai des voitures qui filent. J'ai mis 2 ans et demi à réunir tous ces trucs-là, mais j'ai réussi à la faire. Un jour, c'était bon, j'avais mon matériel, bien sûr, toujours au moins un gros pied dans ma voiture, et sous la pluie, c'était avec ma femme qui était furieuse de m'attendre pendant 2 heures sous la pluie, je me suis installé, elle est là, on vient de la voir, et là, j'ai vu la pluie cesser, tout devenir brillant, les voitures passer au péage et faire des traînées rouges, et ainsi de suite, et c'est une photo que j'ai vendue, c'est pas un de mes best-sellers, mais c'est une photo qui était très compliquée à faire, comme un challenge technique par rapport à moi, réunir des éléments à la fois naturels.
Un idéal, quoi.
Pas un idéal, mais il y a quelques petites photos, comme ça, j'ai une photo de Marine Marchande qui me fait marrer, je faisais un sujet sur la Marine Marchande, et il y avait une partie qui m'intéressait un peu moins, qui était la Grande Croisière, vous savez, ces paquebots, plus de 4000 personnes, et il y avait un très gros paquebot qui arrivait à La Rochelle, et c'était le lendemain du Grand Pavois. Et au Grand Pavois, j'avais discuté avec un type qui a une jonque à l'île Dorée. Et je lui ai demandé à quel moment il rentrait à l'île Dorée avec sa jonque. Et il me dit, demain matin, à 8h. Et je savais qu'il y avait un des plus gros paquebots de croisière, 4300 personnes, qui arrivait le lendemain matin, à 8h, au port de l'île Dorée. J'en ai parlé au pilote, et on m'a dit, vous allez faire votre manœuvre comment? Et là, j'ai réussi à avoir, en m'installant, je suis allé marcher jusqu'au milieu du pont avec mon gros sac, mon gros pied, un gros télé, et j'ai réussi à faire tourner le paquebot à la vitesse que je souhaitais presque, avec complicité des pilotes, avoir la jonque qui passe devant, des immenses nuages absolument magnifiques sur les pertuis, un tout petit bateau des lameneurs ou des pilotes à côté. Là, savoir qu'il y a 4700 personnes qui sont en train d'attendre que je fasse ma photo, ça m'a fait beaucoup rigoler.
Oui. Ça, c'est vraiment c'est le rêve qui se réalise. Moi, j'allais vous demander quelle serait la photo que vous rêvez de faire. Finalement, ça fait 2 rêves réalisés, là.
Non, ce n'est pas des rêves. C'est-à-dire que dans un reportage, on a envie d'avoir des photos fortes. Des photos que, ça fait 40 ans que je fais de la photo, des photos que les autres ne font pas par manque d'expérience, peut-être un peu par paresse. Moi, j'aime bien dans chaque reportage avoir une photo qui soit emblématique. Comme vous avez vu au Spitzberg, avoir le voilier sur lequel on était devant un grand glacier menaçant, c'était intéressant avec les risques que ça comportait. C'est pas gratuit, ça donne des échelles, ça montre la pureté de l'air. Là, sur la Marine Marchande, j'ai 3-4 photos qui sont emblématiques de la Marine Marchande, qui représentent les métiers, les hommes, la taille des hommes, la taille des éléments, et c'est ça qui m'intéresse. Moi, j'ai plein de rêves de photos que j'aimerais faire. J'aimerais aller dans l'Antarctique, faire les canaux de Patagonie en voilier, pas sur n'importe quel voilier. J'ai envie de retourner dans des pays où je suis pas retourné depuis longtemps.
On vous connaît mieux, là, on connaît mieux vos rêves, mais pour les connaître encore mieux, je vais vous proposer de répondre à notre petit questionnaire à la Proust, par des réponses un petit peu rapides pour s'amuser. Si je vous demande là, quel souvenir en couleur vous viendrait, par exemple, est-ce que vous avez vécu du violet, du bleu, du doré?
Alors vous en doutez, j'ai vécu plus de bleu que d'autres couleurs. Des rêves violeurs en général, ouais, c'est des débuts de cauchemar plutôt. Mais j'ai pas de couleurs affectées, c'est-à-dire les couleurs sont...
Mais dans votre souvenir, vous n'avez pas un souvenir qui aurait une couleur particulière?
Ah non, je suis trop disponible, je veux pas...
Alors ce sera un arc-en-ciel. Comment diriez-vous en couleur, pardon?
Un bleu très pâle.
Je t'aime.
L'arc-en-ciel.
Tout un programme. Oui.
Blanc.
Non.
Noir.
Alors en Occident, le deuil se porte en noir. En Orient, c'est en blanc. Un blanc souvent associé au noir, comme au Japon. En Ouzbékistan, les jeunes s'habillent en rouge et les plus âgés en blanc. Et vous, à quelle couleur aimeriez-vous associer ce temps de la vie qu'est le deuil?
Vraiment toute la palette de couleurs qui existe. Parce que le deuil, c'est triste pour ceux qui restent, mais celui qui meurt, il est arrivé au bout. Donc, moi, je souhaite qu'une chose, c'est que le jour où je meurs, les gens soient à la fois tristes et extrêmement heureux.
Donc, de toutes les couleurs, moi, je trouve que c'est une bonne idée. À quelle couleur voudriez-vous associer Mozart?
Alors ça, c'est marrant, parce que Mozart, je ne le vois pas du tout en couleur. Mozart, je le vois comme un immense code-barre. qui bougerait avec des rayures tantôt très très fines, des rayures un peu comme les colonnes de Buren. Mais pour moi, Mozart, c'est tellement magique que c'est un code barre qui n'en finit pas, qui monte, qui grandit, qui... Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, Mozart, je pense qu'il vivrait aujourd'hui, il ferait du jazz rap, mais il vivrait vraiment avec son temps.
Les Beatles.
Un peu rose, c'est sucré, les Beatles.
La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné, pour sa couleur.
Certainement le basilic, parce que c'est certainement le truc que j'aurais le plus mangé dans ma vie.
Mmh, c'est bon ça. De quelle couleur serait votre principale qualité, Franck Bichon ?
Oh, le bleu, certainement.
Alors, votre principal défaut ?
Le gris.
Et si Dieu existe, en quelle couleur le voyez-vous vêtu ?
Ah, je serais tenté de dire toutes les couleurs, mais je pense que, vu l'histoire de l'homme, je le verrais plutôt en rouge. Il y a beaucoup de sang qui a coulé à cause de Dieu.
Je voudrais rappeler que vous souhaitez garder un lien fort avec le public et que pour cela, vous avez depuis peu de temps mis sur pied des stages de photographie et dont vous avez mis en ligne, on en a parlé, un très beau site dont je recommande la visite aux auditeurs. Sinon, Franck Bichon, comment peut-on voir vos œuvres ?
Alors moi, c'est simple, c'est un flux. Mmh. Moi, je produis des photos depuis 40 ans, j'étais en agence, donc j'ai des grosses archives, j'ai environ 1 200 000 photos en ligne. Bon, pas visibles toutes pour le grand public, mais j'ai quand même un des sites qui sont actualisés en permanence. J'ai plusieurs sites, les gens peuvent voir les boulots de commande, les reportages, les sujets d'actualité. Bah, mon flux quotidien, c'est la presse et l'édition. Je prends la semaine passée, photos dans le Nouvel Obs, dans le Point, dans des magazines à l'étranger, dans l'Express, dans la pub, sur les panneaux d'affichage, dans la presse, dans les magazines. C'est là mon lieu d'exposition. Je fais des expositions de temps en temps, mais moi, ma plus grande satisfaction, à une époque, maintenant c'est moins le cas, parce qu'il y en a moins, mais c'est de m'arriver à un feu rouge, il y a un panneau 4x3 qui est une de mes photos.
Bien sûr. Alors, on vous retrouvera donc un petit peu partout, magazine, et puis surtout, on ira voir votre site. Et je vous remercie beaucoup, Franck Bichon, pour cette jolie balade en couleurs. Au revoir.
Merci.